À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
Lyon Première.
Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission L'invité politique le samedi de 11h à midi, évidemment sur Lyon 1ère, avec vous Max Vincent. Alors j'allais dire, on vous présente plus, en même temps je vais vous présenter. Vous êtes certainement l'élu le plus ancien dans le mandat sur la métropole de Lyon. Vous êtes le maire de Limonest, vous êtes maire depuis 45 ans. Quand même, hein.
Quand même, oui.
C'est pas rien. Vous avez été conseiller départemental, conseiller régional, etc. Et évidemment, vous avez un regard tout à fait intéressant sur l'évolution de notre métropole et vous avez des avis très tranchés là-dessus. Comme vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité et c'est le maire un peu que j'interroge. On a eu ces jours-ci une histoire dans la métropole avec un maire qui a décidé de démissionner à Mions, à Monsieur Cohen, en prétextant d'ailleurs à un moment un certain nombre de problématiques en lien avec l'antisémitisme, pour qu'il finisse par nous dire qu'en fait ça n'avait rien à voir avec ça, qu'il souhaitait préparer sa relève, et bref, il était fâché que la loi SRU. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, comme élu? Parce qu'à un moment, on parle beaucoup de la confiance que les gens doivent avoir avec les élus. Est-ce que ça vous a choqué, heurté, perturbé, cette manière de faire?
Non, moi je pense qu'il y a aussi, de la part de beaucoup de collègues, une certaine lassitude. Cette lassitude, elle est due d'une part à la complexité de la fonction de maire. Je crois que moi, je peux en parler, puisque en 1979, je n'ai lu. Quand il fallait présenter un dossier et construire et entreprendre, en général, on arrivait dans le mandat à le faire. Aujourd'hui, quand il faut lancer un projet, et si on ne l'a pas anticipé bien avant, aujourd'hui, il faut 2 voire 3 mandats. Donc, c'est extrêmement lourd. Et ça, c'est le premier point. Second point, c'est qu'on demande au maire énormément de choses. Le maire, c'est la personne qu'on peut mieux le contacter. On connaît le maire.
On dit souvent qu'il est à portée de baffe, d'ailleurs. Ouais,
donc, Larcher, le président Larcher avait dit, le maire est à portée de baffe. Mais pourquoi? Parce que le maire, il est à l'écoute de ses concitoyens. Je reconnais que les gens m'interpellent quand je me déplace et je fais mes courses au village, j'ai aucun problème, je vais dans les bistrots discuter avec les uns, avec les autres. Je veux dire, ils savent que le max est disponible. Voilà. Et donc tout ça, c'est que souvent aujourd'hui, les gens sont extrêmement exigeants.
Vous avez vu une évolution de la demande de vos administrés.
Si vous voulez, à une certaine époque, le maire était hyper respecté, comme le curé, comme l'instituteur. Et puis, quand ça n'allait pas, on n'osait même pas aller lui demander. Hein, on essayait de passer par un conseiller municipal, etc. Aujourd'hui, on va voir directement le maire. Directement. Et puis, le maire, pourquoi ça n'a pas été fait? Et pourquoi les voitures vont trop vite? Etc.
Alors, comme si vous deviez tout régler, mais il y a un niveau d'exigence.
Il y a un niveau d'exigence extrême. Comment ça se fait qu'à la crèche, telle personne était absente? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi au centre aéré, vous nous avez mis une facture?
Alors que mon gamin... devoirs plus que des droits, parfois.
Ah, mais c'est que des devoirs. Aujourd'hui, dites-moi que des
droits,
pardon,
plus que
des devoirs, c'est que des droits. Moi, je paye des impôts, même s'ils n'en payent pas, ils vous diront, je paye des impôts, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela.
Donc ça, c'est compliqué. Mais il aurait peut-être pu, si on revient sur le maire de Lyon, commencer peut-être par ça. Qu'est-ce qui, à votre avis, a expliqué qu'il soit comme ça un peu perdu? Vous le connaissez ou pas?
Oui, bien sûr, parce que quand même, je suis une personne extrêmement estimable, mais je pense qu'il y a peut-être aussi un phénomène de roll-ball, de fatigue. Et donc, après, vous savez...
Sous le coup de l'émotion, on se laisse un peu emporter.
Aussi, on se laisse un petit peu... parfois, nos idées dépassent nos pensées, mais quand même, il y a, je pense, cette lassitude, ces difficultés.
Alors, on va repartir un petit peu de votre histoire, parce qu'à travers votre histoire, c'est aussi un peu l'histoire de la métropole qu'on va regarder. Vous avez évidemment très bien connu un certain nombre d'élus importants, dont Gérard Collomb. Et vous me racontez d'ailleurs que quand Gérard Collomb, au tout début, était maire du 9e, il venait même vous demander la salle des fêtes, parce qu'il n'en avait pas dans son
arrondi. Il n'était pas maire du 9e à l'époque. Il était conseiller municipal d'opposition, et il m'avait dit, Max, est-ce que tu peux me prêter la salle des fêtes? On a des réunions à faire, etc. J'ai pas de salle des fêtes à l'époque. Alors, depuis, ça a bien changé. Mais c'est vrai que moi, en tant que grand démocrate, je lui avais prêté. Il n'y avait pas de souci.
Comment vous qualifieriez vos relations, d'ailleurs, avec Gérard Collomb, vous qui l'avez côtoyé depuis tant d'années?
Alors, Gérard Collomb, il a beaucoup évolué. C'était un socialiste un petit peu pur et dur. Moi, je l'ai connu du temps où il défendait, bien évidemment, le PS. Et puis, je pense qu'il a été assez déçu de ne pas avoir été reconnu en tant que tel par les instances nationales du Parti Socialiste. Il faut le dire. Voilà. Et il n'a jamais été un des ténors, hein, ou on va dire des éléphants du Parti Socialiste. Et finalement, il s'est, entre guillemets, pradélisé, si vous me permettez l'expression, sur Lyon. Et c'est vrai qu'il a bien défendu sa ville. Après,
oui, on parlera tout à l'heure un peu de la métropole, voilà, parce que c'est votre grand combat et vous n'êtes pas d'accord avec lui.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'il a quand même fabriqué quelque chose et fait changer et l'image de Lyon et la ville de Lyon, etc.
Bien évidemment, il a fait changer l'image de Lyon. Bah, d'abord son rayonnement, et puis il avait aussi cette option, et moi je l'ai toujours défendu, que Lyon devienne une ville internationale avec un rayonnement économique et qu'on accueille des entreprises. Aujourd'hui, moi j'ai une zone d'activité importante. J'essaye d'avoir des liens avec la DRLI. On sent pas qu'il y ait une politique ambitieuse pour accueillir, je dirais, des sièges sociaux qui viennent de la région parisienne ou ailleurs, etc.
On va parler de ça. Alors, l'idée, c'était aussi de repartir de votre histoire, de votre parcours. 8 mandats. Vous arrivez dans votre commune en 1955, me disiez-vous, tout jeune. Vous y êtes installé depuis. Vous avez une vie professionnelle dans le monde de l'éducation, un petit peu.
Oui, hein. j'étais, vous savez, le monde de l'éducation, j'étais pas professeur. Moi, j'étais agent comptable gestionnaire, comme un percepteur de l'éducation nationale. Alors, c'était pas facile parce que les gens me demandaient toujours de l'argent.
Il fallait leur dire non souvent.
Et je ne donnais que ce que j'avais.
Pareil, hein? Comme maire, d'ailleurs, est-ce que oui, votre commune, elle est gérée un peu comme un bon père de famille?
On essaye de la gérer comme un bon père de famille, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire les investissements nécessaires. Ça, je le dis. Ça ne veut pas dire aussi qu'il nous faut aussi un minimum d'endettement, mais un endettement correct. Et en fonction aussi des taux qui sont... Et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, on a tout intérêt aussi. La commune, elle n'est pas là pour thésauriser, si vous me permettez, et avoir un an de budget d'avance comme les anciens avaient autrefois. Ouais. C'est ridicule d'avoir de l'argent comme ça qui ne valait rien.
Penser,
gérer, et puis avoir une vision et un avenir de la commune et investir afin que la commune ait les meilleurs équipements.
Comment est-ce qu'on garde la foi comme ça l'engagement, l'énergie après plus de 40 ans, est-ce que vous avez encore une vision pour votre collectivité? Vous l'avez fait beaucoup changer, votre commune. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire dans les années qui arrivent, en fait?
Je pense que il arrive un moment où, ne serait-ce que par le PLUH, on est un petit peu
bloqué. Plan local d'urbanisme et d'habitat.
Plan local d'urbanisme et d'habitat. Ceci étant, ça ne nous empêche pas de réfléchir à certains types d'équipements, parce que notre population, elle augmente, et on voit bien aussi que certains équipements commencent à être saturés, et que pour une commune de 4000 habitants, je vous rappelle que c'est la commune qui était première où il fallait bon vivre. Il y avait une enquête, nous étions la première commune des 59 communes de la métropole à détenir justement ce palmarès, titre premier. Etc.
Alors c'est quoi le quotidien d'un maire de Limonest? Comment est-ce que on pourrait décrire votre journée? Vous êtes beaucoup sur le terrain.
Alors sur le terrain j'y suis, mais je suis aussi tous les dossiers, sur le plan administratif, sur le plan de la gestion, sur le suivi du budget.
Vous êtes un peu partout.
Ah bah bien sûr,
c'est votre vie d'ailleurs. Vous dites souvent que votre carrière vous l'avez mis un peu de côté, puis même votre vie à vous, vous l'avez énormément consacrée à votre commune sans regret. Comment est-ce qu'on trouve comme ça dans le temps l'envie
Je dirais simplement mon énergie est intacte. Elle est intacte parce que le matin je suis tout de suite à la mairie assez tôt et je finis tard le soir parce qu'on participe à beaucoup de réunions de préparation des conseils municipaux, certaines commissions spécifiques, certaines réunions de chantier. Donc, on passe du temps. En plus, je reçois souvent les administrés dès qu'ils le demandent. Il n'y a pas de souci. Donc, en général, on répond aux demandes de nos administrés.
Alors, c'est presque un sacerdoce, en fait, quelque part, d'être maire aujourd'hui.
Oui, c'est un sacerdoce, mais je ne le regrette pas du tout parce que ça me plaît. Je vous l'ai dit, mon énergie est intacte et je souhaite même poursuivre et continuer.
C'est vrai, vous serez sans doute, si la santé vous le permet.
Si la santé le permet.
Candidat en 2026, vous avez peu d'opposants s'il y a...
Si, il y a un opposant pour le moment, il peut y en avoir d'autres d'ailleurs.
Ouais, ce serait pas impossible, mais a priori, on sera amené à vous revoir sur les municipales de 2026. Mais écoute, de toute façon, on va poursuivre notre conversation à la découverte de votre commune, de votre parcours, et puis... de vos convictions, puisque vous êtes connu pour avoir un certain franc-parler. On se retrouve tout de suite dans une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Toujours avec vous, Max Vincent. Je rappelle que vous êtes maire de Limonest, conseiller métropolitain, que vous avez occupé un certain nombre de mandats, que vous en étiez 8e mandat de maire, 45 ans d'élu. On parlait de votre engagement, de votre passion, de ce sacerdoce. Et vous me disiez aussi que c'est quand même de plus en plus difficile d'être élu, parce qu'il y a moins de respect, il y a moins d'attention, il y a plus d'exigences. Et il y a aussi, je sais que vous êtes sensible à ça, parce que vous suivez beaucoup les travaux de l'Association des maires de France, des incivilités, de la violence. Est-ce que vous-même, vous l'avez connu? Vous avez des collègues qui l'ont connu? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Alors d'abord, je pense qu'il y a un problème d'éducation générale. Autrefois, moi, quand j'étais à l'école primaire, le matin à 8h, au tableau noir, il y avait leçon de morale. Leçon de morale, c'était le respect, c'était aussi la tolérance, c'était les valeurs républicaines, fraternité, liberté, égalité. C'était pas des mots comme ça. Or, aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu le chacun pour soi. Donc, on est dans une société de plus en plus individualiste. Encore que, je dirais dans ma commune, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans les associations tout à fait caritatives, généreuses, et puis même dans toutes les associations, que ce soit au niveau social, la DMR, je prends cet exemple, où les bénévoles s'occupent des personnes âgées, même dans les associations sportives, vous avez beaucoup de bénévoles qui font un travail extraordinaire. Vous avez aussi, dans beaucoup d'autres domaines, que ce soit le sous des écoles ou autres organismes, beaucoup de...
C'est que dans un monde de plus en plus individualiste, on trouve quand même encore ouais. de la solidarité, de l'entraide, du partage, dans la proximité, mais c'est devenu plus difficile. Et d'ailleurs, les valeurs que vous évoquez, est-ce que vous ne croyez pas qu'elles sont un peu en train de revenir? Il y a quand même une demande, on le voit, par rapport à l'éducation nationale, même le gouvernement actuel essaie de remettre en place et l'autorité et un certain nombre de choses.
C'est absolument indispensable. S'il n'y a pas d'autorité, comment voulez-vous être respecté? C'est pas possible. Je crois aussi qu'il faut rappeler les fonctions des uns et des autres. La fonction de maire, c'est une très belle fonction, mais le maire, c'est un petit peu quand même le chef d'orchestre du village. C'est lui qui doit veiller, enfin c'est ma conception, à faire en sorte que les habitants vivent bien dans leur commune, avec que chacun et chacune se respecte, que chacun et qu'une soit tolérant. Et ça, c'est quand même important, toutes ces valeurs humanistes. Et ça, je crois que il faut non seulement les développer, mais aussi les maintenir. Et ça, on n'y est pas toujours arrivé. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la mesure où on sensibilise davantage les enfants au niveau des écoles, c'est important. Et puis, il y a un problème de fond quand même. C'est le problème de la parentalité. Dans la mesure où il faut aider les parents, c'est triste à dire, mais à assurer leur mission d'éducateur. Hein.
On ne peut pas tout demander ni à l'école, ni à la commune.
On ne peut pas tout demander à l'école, tout demander à la commune. Quand un enfant fait une bêtise, ça m'est arrivé de recevoir les parents et les enfants.
Vous faites des rappels à la loi parfois sur
Alors, je n'ai pas eu besoin de faire des... Ce n'est pas le terme exact de rappel à la loi, mais quand on sait qu'un gamin a fait une bêtise ou a vandalisé ou telle chose, moi, il s'est trouvé que j'ai accueilli des parents avec les enfants.
Alors, on va partir aussi un peu du coup à la découverte de cette ville de Limonest. Vous me disiez 4000 habitants à peu près, une ville de l'Ouest, assez aisée, une population plutôt assez aisée, mais en même temps une vraie zone verte, les deux tiers en zone verte, zone protégée. Comment vous racontez votre commune à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas?
Eh bien, c'est une commune qui, au départ, moi lorsque je suis arrivé à Limonest, j'avais 5 ans, c'était une commune essentiellement rurale, hein, très rurale, avec pas mal d'exploitations agricoles. Et puis, vers les années 70, la commune a commencé à se construire davantage, avec beaucoup de maisons individuelles. Et puis, vers les années 80, un petit peu, on a commencé les collectifs. À l'époque, il n'y avait pas de collectifs, dans les logements sociaux, ouais, je le dis très simplement. Et puis, ça a été aussi l'occasion de 75, à partir de 75, de réfléchir au développement économique. Et là, on a réussi à créer 80 hectares de zones d'activité, quand je dis de zones d'activité, avec des entreprises high-tech, en particulier dans le domaine de l'informatique. Vous avez aujourd'hui LDLC qui est installé, vous avez des sièges sociaux Blédina, vous avez d'autres entreprises tout aussi importantes comme Soprasteria et j'en oublie beaucoup.
Oui, parce que la fameuse zone dont on parle, elle est connue sous le terme de Teclid. Mais Teclid, c'est le nom de l'association qu'on avait créée au départ.
Teclid, on l'avait créé à l'époque en 88, si je ne me trompe pas, avec Jean Rigaud, où on voulait justement développer tout le secteur des quatre communes, Écully, Dardy, Limonest, Champagne-Mont-d'Or. Ensuite, la Tour de Salvagny est venue nous rejoindre. Et là, on avait, si vous voulez, une force de frappe pour accueillir les entreprises et aussi peser au niveau de la communauté urbaine pour que notre secteur devienne un pôle attractif au niveau du développement économique pardon, et que tout ne soit pas développé à l'est. Il y avait donc une sorte d'aménagement du territoire
et d'équilibre. Avant l'heure. Et voilà. Alors, dans les choses qui ont été compliquées peut-être à mettre en place, et aujourd'hui d'ailleurs c'est un de vos sujets de discussion je suppose avec la métropole, c'est la question et les enjeux de la mobilité, puisque cette zone, la fameuse zone d'activité, c'est, me disiez-vous, presque 12 000 salariés qui chaque jour viennent, et on sait que pour venir chez vous, c'est parfois un peu compliqué en termes de mobilité. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu avant un certain nombre de moyens lourds, d'équipements qui auraient permis de faire en sorte que ce soit plus accessible?
Moi, je le dis, le secteur du Nord-Ouest est le parent pauvre. C'est vrai qu'on n'a pas eu le même développement aussi important qu'à l'Est. C'est vrai que les lignes de tramway elles se sont faites à l'Est. Aujourd'hui, tout ce qui se fait, c'est à l'Est. Sur le secteur du Nord-Ouest, enfin de l'Ouest lyonnais, il y avait le fameux, je dirais, pas le tramway, puisqu'on devait faire le métro. Et puis que là, l'exécutif métropolitain est revenu dessus. Et là, moi, je ne peux que le regretter. Ça permettait aussi de désenclaver l'Ouest lyonnais. Aujourd'hui, on est en difficulté parce que lorsque les gens prennent le bus à la gare de Vaise, c'est-à-dire à la station de métro, il n'y a plus que le bus à prendre, et le bus, il n'y a pas assez de bus, pas assez de fréquences. Je l'ai dit et redit. Nous ne sommes pas du tout entendus, je vous le dis très simplement. Et si aujourd'hui, en plus, on ne privilégie que le vélo avec les voies lyonnaises, en particulier la voie lyonnaise numéro 4.
Ah oui, alors ça c'est un autre de vos combats, la voie lyonnaise numéro 4, c'est pas votre ami, visiblement.
C'est pas mon ami parce que elle ne répond pas au problème. C'est simplement une vue de l'esprit. On dit, on va créer le besoin, c'est-à-dire qu'on va faire une autoroute, de vélo, qui va partir soi-disant de Villeurbanne en passant par Lyon, Vaise, Champagne, Mont-d'Or pour aller jusqu'à Lisieux. Vous me direz combien vous allez voir de cyclistes qui vont aller de Lisieux jusqu'à Villeurbanne. Alors là, je vous mets mon billet, vous n'allez pas en avoir beaucoup. En revanche, on va remettre le bus dans la voie des voitures. Et alors là, le temps de trajet qu'on avait réussi à gagner par rapport aux voitures, eh bien on va le perdre. Les gens vont dire, mais à quoi ça sert de prendre le bus? C'est une véritable catastrophe. Et sur le plan commercial, ça va peser aussi sur la zone d'activité parce que les gens ont beaucoup de difficultés à se déplacer sur notre secteur. Là, la voie lyonnaise va nous pénaliser énormément. Je crois que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et aujourd'hui, les commerçants commencent à s'en rendre compte. Mais il y a aussi un autre problème, c'est aussi tout le problème des secours, le problème aussi des pompiers. Comment on va faire lorsque les voies seront saturées? Et qu'est-ce qui va se passer?
Et qu'est-ce qu'il dit alors le président Bernard, qui est à la fois président de la métropole et du Citral?
Il n'y a pas de souci avec Monsieur Bagnon, ils sont dans leur nuage, pas de problème. On va faire des petits couloirs alternatifs pour les bus. Quand il y aura trop de circulation, ils pourront se déplacer indirectement. Non, mais c'est une gabegie. Et puis une gabegie financière, ça coûte extrêmement cher. On aurait mieux fait d'améliorer les voies bus, de nous mettre des bus suffisants pour que justement on puisse régler ce problème.
Alors on le voit d'ailleurs sur ces questions de la métropole, vous êtes, et je le disais depuis quasiment le début, et un fervent supporter de l'intercommunalité et un farouche adversaire de la métropole telle qu'elle a été conçue à l'époque par Gérard Collomb.
Et vous, je l'ai dit,
et Monsieur Mercier.
Je l'ai dit, nous avons été trahis. Je l'ai dit, puisque malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose. Certains m'ont reproché en disant, mais tu as voté. On n'a rien voté. Ça s'est fait au Parlement, et il y a des sénateurs LR qui ont voté dès demain cette loi MAPTAM. Nous, on n'a jamais été, et ça c'est ce que j'ai dit, sollicités en conseil municipal pour délibérer là-dessus. Jamais nous avons été sollicités. On nous l'a imposé. Et même lorsque la commission parlementaire est venue pour faire un point d'étape, Michel Mercier était présent, moi j'étais présent, il a reconnu que cette loi était insuffisante, hein, et pas suffisamment complète. Hein, insuffisante, incomplète. Moi j'ai dit que c'était une loi scélérate qui fait qu'aujourd'hui, vous avez même pas un tiers des communes qui sont représentées.
Le problème, c'est la représentation des maires à la métropole.
Donc, aujourd'hui, nous demandons, nous, aux législateurs,
de revoir ça. Quand vous dites nous, c'est aussi le groupe Synergie auquel vous appartenez.
C'est le groupe Synergie, plus le groupe LR. C'est un groupe transpartisan, je tiens bien à le dire, transpartisan, hein. Où nous avons mobilisé tous les élus, les 48 communes, qui ont délibéré justement pour demander que chaque commune soit représentée à la métropole. Aujourd'hui, vous avez deux légitimités qui s'affrontent. Hein, nous avons été élus aussi au suffrage universel, les conseillers métropolitains aussi. Et vous avez dans certaines communes le maire qui a été élu, et puis vous avez son opposant qui est vice-président à la commune, à la métropole. Quelle politique on doit mettre en place? Et ils mettent des politiques en place qui ne nous conviennent pas. Et ce sont sur nos communes. Qui est-ce qui doit avoir le dernier mot? C'est bien quand même le maire.
Mais est-ce que vous pensez
c'est la proximité.
On va pouvoir revenir en arrière. Parce que dans la proposition de loi qui est portée notamment par le sénateur Blanc et je crois Alexandre Vincent Day, ils veulent revenir un petit peu au système d'avant. Est-ce que vous pensez que c'est possible et qu'on n'a pas enclenché trop de choses déjà?
Alors, là aussi, je pense que les gens ne sont pas toujours très honnêtes. Personne ne nous arrive à nous démontrer que revenir à l'EPCI, c'est anticonstitutionnel. On nous dit c'est anticonstitutionnel. Moi, j'ai pas, on n'a pas d'éléments. Aujourd'hui, vous avez aussi la proposition de loi de Madame Brocane, la députée de la cinquième, de notre circonscription, hein, le Val-de-Saône et les Monts d'Or. Eh bien, elle dit, moi, je vais simplement demander que chaque commune soit représentée. Si on y arrive, tant mieux. Moi, je préfère qu'on revienne à l'EPCI. Et l'EPCI, c'était pas bien compliqué de le mettre en place, avec des conventions, avec à l'époque, avec le département, où on aurait repris certaines compétences, avec une clé au niveau des finances.
Donc on a l'impression que la métropole, aujourd'hui, c'est pas forcément le bon instrument, parce que certains s'interrogent
pas du tout,
sur
pas
l'envergure.
Et en plus, moi je vais vous dire, je vous interromps, mais
non, je vous en prie.
C'est une grosse machine. C'est une grosse machine qui n'est pas réactive, où ça nous coûte de l'argent. On a plus de 10 000 agents. Moi, je pense qu'il faut décentraliser au niveau des communes. Il faut redonner aux communes certaines compétences et certains financements. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Pour demander un sens interdit, ça fait 6 mois que je demande un sens interdit, de mettre le panneau. Oh ben non, mais on ne veut pas, etc. Mais qui est-ce qui est le patron dans sa commune? C'est plus possible. Voilà. Donc il faut que ça s'arrête. Parce que si, je l'ai dit au Premier ministre, M. Attal, quand il est venu à la base aérienne, je dis si vous ne faites rien, ça va mal se terminer. Je le dis très simplement.
Et est-ce qu'il vous a entendu, du coup, le Premier ministre?
Écoutez, les trois premiers ministres que j'ai eu l'occasion de voir, enfin les quatre, il y avait donc M. Édouard Philippe, qui avait bien compris les enjeux. Jean Castex, qui avait fait de l'intercommunalité aussi, qui était avec qui on a bien pu discuter. Madame Borne, c'était plus rapide, c'était plus difficile dans le contact. Et puis Gabriel Attal, ben, qui était extrêmement sollicité, très pressé. On aurait aimé avoir un entretien un peu plus long.
Il reviendra peut-être.
Nous le souhaitons.
Alors sur la métropole encore, pour essayer de comprendre, parce que vous parlez aussi, et vous êtes un spécialiste de ces enjeux de développement, de l'attractivité. Il y a un certain nombre d'élus qu'on reçoit ici qui disent, aujourd'hui dans le bilan, dans le passif de la gouvernance écologique, il y a le fait qu'aujourd'hui, Lyon est moins attractif, perd de la place dans les classements, ne sait plus accueillir des entreprises, etc. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Oui, je partage cette analyse parce que moi j'ai une zone d'activité, je vous l'ai dit, il y a 12 000 salariés. Actuellement, on est en train de construire plus de 20 000 mètres carrés de locaux. Est-ce qu'on a un plan pour accueillir les entreprises? On n'a rien. Les investisseurs, les promoteurs, ils sont là, je crois qu'ils en ont fait leur deuil, ils se débrouillent eux-mêmes. Mais c'est pas normal. On doit être là pour accompagner l'installation des entreprises. Les entreprises qui s'installent, c'est de la richesse quand même pour notre économie locale. Enfin, on va pas non plus devenir un désert. C'est pas possible de pas avoir cette conception. Ils sont quand même limités. Il n'y a pas d'ambition.
Est-ce que c'est ce que vous garderiez comme élément principal du mandat quand on essaie de regarder le mandat de la gouvernance écologiste à la fois sur la métropole et sur la ville de Lyon? Qu'est-ce que vous gardez quand même peut-être de positif? Est-ce qu'il y a eu des choses positives ou finalement pas tant que ça?
Positif, bon, ils vont vous dire qu'ils ont planté beaucoup d'arbres, mais on les a pas attendus pour planter des arbres. Venez à Limonest, il y en a encore plus qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Donc, faut arrêter. Oh, c'est pas tout négatif, mais enfin, c'est loin d'être positif. Ça, bon. Je peux vous le dire.
Eh bien, écoutez, on va poursuivre cette discussion en essayant de chercher des points positifs, puis on parlera évidemment des élections européennes qui sont quelque chose auquel vous tenez beaucoup. À tout de suite pour une troisième partie de notre émission. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Toujours avec vous, Max Vincent, maire de Limonest. Depuis 45 ans, on a parlé de votre passion, de votre engagement pour la commune, de vos coups de gueule, effectivement, sur un certain nombre de sujets. On va parler maintenant, peut-être à la fois de politique nationale, des élections aussi européennes qui arrivent. Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes depuis toujours un centriste, en fait.
Je suis centriste, oui, démocrate chrétien, centre droit, voilà, un petit peu, voilà, libéral aussi sur le plan économique.
Du coup, a priori, un Européen convaincu.
Ah oui, l'Europe a beaucoup apporté. Je pense que les procès qui lui sont faits aujourd'hui ne sont pas de mise. Je rappelle, alors, bon, il y a la guerre en Ukraine, mais que jusqu'à maintenant, depuis 1945, on a vécu en paix. Je crois qu'aussi, sur le plan du développement économique, même du développement agricole, on a permis à beaucoup d'exploitations de prospérer, sur le plan industriel aussi, et puis aussi sur le plan de l'euro. C'est quand même une monnaie unique. Là aussi, ça a été extrêmement positif. Alors, c'est un peu facile de critiquer, de dire c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe. Qu'ensuite, au sein même des institutions, il y a lieu de les réformer pour améliorer la gestion de l'Europe.
Pour moderniser, la rendre plus simple.
La rendre plus simple, mais vous savez, ce qu'on ne dit pas, c'est que parfois l'Europe vous donne des règlements et que parfois ce sont les États nationaux qui aggravent la situation et qui rajoutent une couche, alors qu'on pourrait très bien faciliter les choses beaucoup mieux. Donc là aussi, il faut que chacun balaye devant sa porte.
Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de dire, ce qui me semble être un peu le cas d'ailleurs, qu'on se trompe un peu de combat, parce qu'en ce moment, visiblement, les Français ne sont pas passionnés par les élections européennes, même si ça frémit peut-être doucement, n'y comprennent pas grand-chose, et en même temps, on règle des comptes de politique intérieure, alors qu'il faudrait peut-être s'occuper de vrais enjeux.
C'est toujours la difficulté de ce genre d'élection. L'élection européenne, les Français vont, certains vont se venger, si on me permettait l'expression entre guillemets, en disant, oui, le gouvernement actuel, on n'en est pas satisfait, et on vote contre ce gouvernement. En fait, là, on se trompe totalement d'élection. Je crois qu'il faut que les Françaises et les Français comprennent que là, il y a des enjeux extrêmement importants sur le plan de la géopolitique. Vous avez d'un côté une Russie conquérante, une Chine qui, sur le plan commercial, se développe énormément, des États-Unis qui ont un produit intérieur brut qui augmente sans cesse. Et quelle est la place de l'Europe aujourd'hui? C'est bien la question qu'il faut se poser. Et j'ai entendu un petit peu le président Macron à 11h qui a défini une sorte de vision européenne. Et c'est cette vision qu'il faut mettre en place, parce qu'on a besoin d'une défense, ou au moins des éléments qui nous permettent d'avoir une défense commune. Nous devons développer aussi certaines industries pour qu'on ne soit pas tributaire soit des États-Unis, soit de la Chine, ou même de la Russie pour les produits pétroliers, énergétiques.
Oui, donc, il a parlé d'un certain nombre de sujets, d'ailleurs, effectivement, autour d'innovation.
Voilà, d'innovation. Je crois qu'il faut que...
Donc il y a une place pour l'Europe aujourd'hui.
Il y a une place importante, même je dirais essentielle pour sa survie.
Je crois que ce qui vous agace du coup comme Européen convaincu, c'est aussi peut-être le fait que à la fois on se trompe de combat et puis peut-être que certains ont des pseudo-propositions peu à argumenter. Vous êtes aussi très clair depuis toujours dans votre combat contre le Rassemblement National.
Le Rassemblement National, c'est, vous me permettrez, c'est du poujadisme au niveau européen. L'État des nations, les nations, l'Europe des nations, pas l'État des nations, l'Europe des nations. Mais ça veut rien dire. On doit mettre en commun toutes nos énergies, nos richesses, tant sur le plan, je dirais, économique, industriel, l'innovation technologique. On a plein d'atouts. C'est ça qu'il faut faire. N'importe comment, moi, ce que j'ai vu, c'est que les élus européens du RN, hein, les élus RN au Conseil européen, la majeure du temps, ils n'y sont pas. Ils ne travaillent pas leur dossier. Ils ne connaissent pas leur dossier. C'est assez lamentable. Je pense qu'il faut que les Français se réveillent, se rendent compte qu'ils sont abusés par ces gens-là.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, et peut-être que c'est aussi une évolution inéluctable de la société, du débat démocratique, une place importante prise par les médias, par les réseaux sociaux, par l'image, par tout un ensemble de choses qui font que, face à la complexité, les gens vont moins facilement sur les sujets et donc se laissent emmener par une image d'un jeune homme qui a l'air sympathique et qui présente bien.
Oui, peut-être BCBG, c'est bien, mais ça suffit pas. Si vous voulez, il y a pas de fond. C'est uniquement, je dirais, les paillettes. On reprend des formules. Alors c'est vrai qu'il faut un peu choc chaque fois. Bien évidemment, c'est le thème de l'immigration. Moi, je m'excuse encore une fois, là, on en parle. Bien sûr qu'on est pour l'immigration contrôlée. Mais on a besoin des immigrés. Parce que sur le plan économique, aujourd'hui, qui travaille dans les hôpitaux? Qui travaille dans le bâtiment? Qui travaille au niveau des travaux publics? Qui travaille dans l'hôtellerie et dans la restauration? La plupart du temps, ce sont des étrangers. Donc il faudra bien quand même comprendre qu'on ne peut pas toujours crier « haro sur l'étranger ». Qu'on ait une politique migratoire stricte et bien sûr vérifiée et contrôlée, bien évidemment. Hein. Mais de là à exclure tout le monde, c'est pas une bonne chose.
Est-ce que c'est d'ailleurs aussi à l'échelle européenne qu'on peut faire un certain nombre de choses pour ce qui concerne, j'allais dire, le climat, puisque un des enjeux aujourd'hui, c'est quand même clairement la transition climatique et écologique. Est-ce que vous-même, d'ailleurs, comme maire, vous pensez être au bon endroit et à la bonne maille, comme on dit, pour changer un petit peu? Alors, et faire face à ces transitions écologiques?
Ça dépend des dossiers. On sera à la bonne maille dans le cadre de la transition écologique, le maire dans sa commune, parce qu'il aura une politique de rénovation de ses bâtiments communaux, les écoles, pour éviter que ce soit des passoires thermiques. Au niveau de la métropole, elle doit faire un effort, en particulier sur les logements et le logement. On peut pas avoir aussi des passoires thermiques. Là aussi. Donc je crois qu'à
chaque niveau, on doit pouvoir
intervenir à son niveau, justement, pour sensibiliser. Planter des arbres, tout le monde peut en planter. La métropole, les communes, même le particulier.
Est-ce que vous diriez que vous étiez du coup peut-être un écologiste avant l'heure, ou que même, j'allais dire, tous les maires quelque part sont écologistes? Mais en fait,
tous les maires sont écologistes. Vous savez, à Limonest, moi, j'ai pas attendu qu'on me dise qu'il fallait planter des arbres. J'en ai toujours planté. Tous les mandats, on en a planté. Et on le faisait d'autant plus que la plantation d'arbres, on payait la plantation d'arbres et la recette allait au foyer des sans-abri. Donc, vous voyez, et on continue à le faire. Chaque année, nous faisons ça. Dans d'autres domaines aussi.
Vous êtes un élu local. Vous êtes donc dans la politique locale. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être un homme politique? Est-ce que vous, concitoyens, vous regardez comme ça? Vous vous intéressez évidemment à la vie politique, mais est-ce que vous avez l'impression d'être un homme politique?
Moi, je n'ai pas l'impression d'être un homme politique. Je suis un élu local au service de sa population, au service de ses administrés. Parce qu'un élu, il doit être au service de ses concitoyens.
Mais pour l'instant, effectivement, alors, on sait que vous avez peut-être, vous nous l'avez dit, des ambitions pour les prochaines municipales, pas d'autres ambitions nationales, autres qui arriveraient tout d'un coup. Vous avez passé l'âge, votre carrière est derrière vous.
Oui, j'ai passé l'âge. Non, simplement, je pense qu'il va bien falloir s'impliquer au niveau des municipales, mais surtout au niveau des élections métropolitaines. Il faut impérativement qu'on ait une alternative par rapport aux verts qui sont actuellement exécutifs métropolitains.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un rassemblement un peu au premier tour pour éviter ce qui s'était passé la dernière fois?
Il faut que dès le premier tour, on ait un large rassemblement. Je le dis, hein,
du centre-gauche,
à la droite, etc. Voilà, moi je le dis, il faut un large éventail rassemblé sur c'est pas bien compliqué, hein. On est tous pour améliorer les transports et qu'on ait un plan métro qui soit digne de la métropole. On est aussi d'accord pour un développement économique. On sait qu'on doit prendre en compte aussi les problèmes sociaux. On est aussi pour une politique active du logement, parce que là aussi, il y a quand même problème, hein. On va manquer de logement. On manque de logement, mais on n'arrivera pas du tout aux objectifs que l'exécutif métropolitain c'était.
Il faut penser une alternative, mais est-ce que vous seriez, comme certains de vos collègues, je crois qu'il y avait une initiative récente de la maire de Sainte-Foy, je crois, et du maire de Saint-Priest, qui avait fait un petit binôme tous les deux en se disant, bah tiens, il faut virer les verts. Est-ce que vous pensez que c'est une manière positive et constructive d'avancer?
Bon, chacun y va un petit peu de la sienne. Je pense qu'il va falloir, je vous le dis très simplement, si on veut gagner, se mettre en ordre de marche.
Se rassembler autour aussi d'une tête de liste quand même.
D'une tête de liste, mais d'un projet. Il faut un projet. Parce que, pour moi, le plus important, c'est le projet. Ah, si on n'a pas un projet sérieux, on ne sera pas crédible. Il nous faut un projet sérieux qu'on défende. Et à ce moment-là, la tête de liste se
viendra naturellement.
Voilà.
Alors, derrière ces élections métropolitaines, on en parlait, il y a aussi évidemment des perspectives de politique nationale. On a compris effectivement que le président Macron ne pourrait pas se représenter, que le Rassemblement National est quand même très présent et que c'est pas forcément votre tasse de thé. Qu'en tant que centriste, sauf à erreur de ma part, il n'y a pas de candidat naturel. Comment vous voyez l'après, cette présidentielle? Qui pourrait incarner quelque chose qui rassemblerait un peu votre famille?
Moi, je suis centriste, mais centre-droit, je l'ai dit. Je pense que la personne qui me semble aujourd'hui la mieux à même d'assurer la présidence de la République, c'est Édouard Philippe. Je le dis très simplement. Alors, c'est mon sentiment.
Voilà. Même s'il était un peu peut-être marqué par les premières années d'un bilan avec Emmanuel Macron, pour vous, il peut incarner quand même quelque chose d'autre.
Oui, tout à fait.
Et du coup, centre-droit, c'est pas LR, mais ici, en région, on a un candidat naturel, même s'il parle peu en ce moment, qui est Laurent Wauquiez. Est-ce que vous avez un avis? Vous le connaissez aussi évidemment très très bien, sur ses qualités, ses compétences, etc.
Je crois que Laurent Wauquiez est un excellent président de région. Un excellent président de région. Après, chacun a ses ambitions. Et c'est tout à fait naturel.
Là aussi, ça se réglera. Non, mais je dis ça parce que vous êtes très investi à l'Association des maires de France et que le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, je crois, a aussi des velléités.
Ah, mais les gens, ils en ont tous, mais c'est naturel. Bon, David Lisnard, il défend aussi les communes. Je trouve qu'il a été bon dans certaines de ses interventions. Mais après, chacun ressent un peu les choses
à sa manière.
À sa manière.
Alors, on est samedi, demain c'est dimanche. Souvent, à ce moment de l'interview, j'ai ce type de questions. Qu'est-ce que vous faites de vos dimanches? Sous-entendu, on a bien compris l'engagement fort qui était le vôtre avec votre commune. Vous dites souvent que vous êtes marié avec Marianne. Est-ce qu'il y a quand même du temps pour faire autre chose, pour prendre du recul, pour une passion, un hobby? Est-ce que le dimanche, parfois, vous arrivez à prendre un peu de détachement vis-à-vis de toutes vos responsabilités?
Alors, j'aime bien suivre mon équipe de foot, je vous le dis.
Oui,
je suis un peu...
Vous êtes un petit peu fan monomaniaque, un peu d'ailleurs.
Un peu chauvin.
Dans l'équipe de Limonest, mais pas simplement. Qui est en quoi?
Qui joue National 3. Ouais. Et là, je reconnais que je suis assez chauvin et que je suis un supporter très fidèle et que je suis même assez exigeant avec eux.
D'accord. Parce que vous participez, effectivement, vous contribuez. Parce que National 3, c'est juste avant de devenir professionnel. C'est semi-pro,
National 3. Oui, semi-pro.
Mais ça demande quand même un peu d'investissement, un stade, des infrastructures,
bien sûr,
etc.
Bien sûr. Alors, je rappelle que... Là aussi, on fait de l'intercommunalité, hein. Saint-Didier, Dardy, Limonest. On est les trois communes parties prenantes sur le club qui fait Football Club de Limonest, Saint-Didier, Dardy.
Qui va se maintenir cette année?
Ah ben normalement, ça y est, c'est acquis. Mais on a fait une saison extrêmement irrégulière. Il y a des talents, mais ça manque de mental, à mon avis, si on veut tenir
la route
et puis le classement.
Ouais, et puis rejoindre peut-être, parce qu'il y a un autre club lyonnais qui est en National 2, c'est la Duchère notamment.
Non, la Duchère est descendue.
Oui, et redescendue.
Et la Duchère joue la montée.
Et là,
il y a un combat avec Saint-Priest. Ouais. Hein, et on a une poule, d'ailleurs, je le dis, on devait avoir soi-disant des poules, je dirais plus que régionales. Aujourd'hui, on se retrouve avec une poule régionale, qui fait qu'on a un niveau extrêmement élevé. Et je trouve que c'est pas très juste. Et là, c'est le reproche que je ferai à la fédération. on devrait avoir des poules beaucoup plus, je dirais, qu'elles aillent au-delà des régions.
Pour que ce soit un peu plus équilibré.
Absolument.
Et par rapport à l'OL, je suppose que vous suivez aussi avec attention. Qu'est-ce que vous pensez de cette résurrection? Parce que quand on pense à ce qu'il y a il y a quelques mois, c'est non seulement le maintien, mais...
Ça démontre une chose, c'est qu'il faut aussi, je dirais, de la patience, de l'opiniâtreté, du travail.
Forme de constance aussi, peut-être.
Constance, du travail. Ben oui, mais si vous avez le travail, vous êtes opiniâtre, vous êtes là, investi, etc., automatiquement, ça porte ses fruits. Et donc, je ne peux que féliciter aujourd'hui l'équipe de l'Olympique Lyonnais et son entraîneur. C'est beau, c'est bien ce qu'ils font. Et bon, je suis tout cœur avec eux, bien
sûr. Et puis, c'est un peu moins peut-être bling-bling qu'à d'autres endroits.
Ouais. Oui, je crois que... je dis, ça reste Lyonnais, puisqu'on est attaché. On est attaché à... Voilà, il n'y a pas de bling-bling, comme vous dites. On aime les Gones, aiment l'OL.
Alors, pour se quitter, on se quitte en musique, comme à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez choisi? Quelque chose de très classique et de très efficace aussi?
C'est Johnny, avec
Allumer le feu. Le feu qui vous anime toujours, du coup.
Voilà, qui m'anime toujours, qui nous rend toujours énergiques. Bien évidemment, notre énergie est intacte.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu. Raconter un petit peu votre parcours et mieux nous aider à comprendre l'histoire de notre métropole. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.
À bientôt.
Pour une nouvelle émission. Au revoir.
Ouais.
C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+.
Lyon Première.